de l'Esprit Saint.
Oui, Seigneur.
Nous avons tellement besoin de cet Esprit Saint, pas seulement aujourd'hui, jour de Pentecôte, mais tous les jours, tous les matins quand nous nous levons, nous devrions demander ton Esprit Saint pour qu'il guide notre journée. Et puis, particulièrement, Seigneur, chaque fois que nous ouvrons ce merveilleux livre que tu nous as donné, qui s'appelle la Bible, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour comprendre. Comprendre ce que tu cherches à nous dire, comment tu veux nous diriger par ces paroles. Alors, Seigneur, au moment de m'ouvrir ce livre, eh bien, sois présent, ce que ton esprit chasse dans nos pensées, dans nos cœurs, tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Alors naturellement, le texte incontournable, eh bien, c'est dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1, on ira jusqu'au verset 11, donc Actes 2, 1 à 11. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration ils disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Alors ce texte figure au tout début des Actes des Apôtres. Il est comme une sorte de point de départ. C'est ce jour où les disciples deviennent apôtres, enfin les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Alors on l'appelait bien sûr les Actes des Apôtres, mais très honnêtement, je me demande si on n'aurait pas mieux fait d'appeler ce livre les Actes du Saint-Esprit. Alors certes, les apôtres sont à l'œuvre, hein, vous pouvez lire l'ensemble de ce livre. C'est extraordinaire comment les apôtres se sont mobilisés pour construire la toute nouvelle Église, l'Église primitive, et propager la parole du Seigneur dans tout le monde connu de l'époque. Mais derrière chaque agissement, chaque acte des apôtres, on perçoit très facilement la puissance, le soutien du Saint-Esprit. Et on se finit par se dire, mais c'est lui qui est à l'œuvre. Parce que bon, les apôtres, on les connaît, hein, ils sont passés par la peur, la trahison. Bref, les apôtres, c'est pas des super-héros. Hein. Les apôtres, c'est des gens comme vous et moi qui ont leurs faiblesses, etc. Donc on se doute bien que pour arriver à faire ce qu'ils ont fait, ils avaient vraiment besoin eh bien, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est certainement donc la personnalité de Dieu qui est la plus difficile à appréhender. Bon, le Père, il y a des mystères, bien sûr, encore, hein, mais encore que le Fils nous a révélé le Père. Donc, voilà. Le Fils, lui, on l'appréhende très bien parce que ben, il a été un homme parmi nous, il est décrit dans l'Évangile avec tout ce qui peut lui arriver, qui nous arrive aussi, vous voyez, les tentations, etc. Donc on le saisit bien aussi. Le Saint-Esprit nous pose toujours un peu problème. Quelle est sa nature? Comment agit-il vraiment? Voilà. On se pose des questions. Et il est possible que, au fil des siècles, on ait dit et écrit beaucoup de bêtises ou d'erreurs sur le Saint-Esprit. Alors, moi, je crois que pour, puisqu'aujourd'hui, je vous invite à méditer sur ce Saint-Esprit, je pense que le mieux, c'est d'essayer de rester bien collé aux paroles de la Bible. Et notamment, je vais vous lire plusieurs versets, par-ci, par-là, des Actes des Apôtres, puisque c'est vraiment le livre où il est vraiment question du Saint-Esprit, mais pas seulement. Alors, voyons d'abord ce que Jésus lui-même en dit du Saint-Esprit. Et là, je suis sûr de ne pas me tromper si je cite Jésus, il n'y a pas de bêtise possible, n'est-ce pas? Dans Jean 14, versets 25 et 26, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. « Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Alors là, quand il dit ça, c'est avant son arrestation et sa crucifixion. Donc, il annonce déjà le Saint-Esprit, à ce moment-là, à ses disciples, qui, à mon avis, ne comprennent pas. Hein. Ils ont enregistré la parole de Jésus, mais c'est confus. Un peu plus tard, dans Actes, alors cette fois-ci on passe dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, donc au tout début, Jésus renouvelle la chose. Alors cette fois-ci, il est juste avant l'ascension, quelques minutes peut-être, avant de retourner auprès du Père. Et voilà ce qu'il dit à ses disciples. « Mais vous, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, intéressant. Dans les deux cas, vous voyez qu'il s'agit d'une promesse. Jésus annonce, promet ce Saint-Esprit à ses disciples, juste avant sa mort et juste avant l'ascension. Promesse qui a été tenue, puisqu'il y a eu Pentecôte. Quels sont les mots qui reviennent, notamment dans Jean 14, 25 à 26, les deux mots qui caractérisent le Saint-Esprit? Alors moi j'en vois deux. Deux notions, pas forcément. Le consolateur, ça c'est marqué en toutes lettres, le consolateur. Et puis, il vous enseignera, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc il y a deux choses, consolateur et, comment on pourrait dire, enseignant, révélateur. D'accord ? Voilà les deux caractéristiques. Jésus n'en dit pas plus sur le Saint-Esprit. Consolateur, révélateur. Alors, consolateur, de quoi ? De gros chagrin ? De quoi ont-ils besoin d'être consolés, les disciples ? Bien, tout simplement, consolés du fait que Jésus s'en va. Jésus s'en va, et à l'ascension notamment, il leur dit au revoir, on se reverra, mais à la fin du monde, hein, au jugement dernier. Et donc, imaginez, c'est le propre du disciple d'être en sécurité avec son maître. Et là, le maître dit, maintenant, c'est, je m'en vais, à vous de poursuivre l'œuvre, de reprendre le flambeau, en quelque sorte. Et donc, ce qui peut inquiéter, ce qui peut attrister, évidemment, les disciples, le maître qu'ils aimaient par-dessus tout, il s'en va. Donc, le Saint-Esprit, consolateur, et également, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Donc, il a une fonction d'enseignement, d'explication, de révélation. Et bien là aussi, dans les deux cas où il est consolateur et révélateur, le Saint-Esprit se substitue à Jésus, puisqu'il est parti, il prend sa place pour continuer à édifier les disciples, à les stimuler, à les rassurer, etc., etc. Donc voilà déjà une première chose. Ensuite, je vais vous lire maintenant deux autres passages dans les Actes, et vous allez essayer de repérer, c'est facile, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas compliqué, vous allez essayer de repérer les deux mots qui reviennent dans ces versets. Acte 4, verset 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et puis dans Acte 6, verset 8 à 10, Étienne, ici, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue, là je saute un passage, se mirent à discuter avec Étienne mais il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Voilà, alors les deux mots qui ressortent.
Grâce et puissance.
Une image de pièce pour elle.
Merci.
Grâce et puissance. Grande, même grande grâce et grande puissance. Et dans le deuxième verset, c'est l'application de cette grande puissance et cette grande grâce. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que Étienne discute avec des élites, hein, de la synagogue, des docteurs de la loi, des choses comme ça, et ils ne peuvent pas, ils sont incapables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Et comme je vous disais, c'est les actes du Saint-Esprit, hein, c'est pas les actes des apôtres, là, c'est vraiment les actes du Saint-Esprit. Oui, plein de grâce et de puissance. Alors, ça n'empêchera pas Étienne, dans les minutes qui suivent, d'être lapidé, hein. Vous voyez, et ça me rappelle, ce passage me rappelle une parole de Jésus, j'y pense que maintenant, bon, je ne pourrais pas vous donner la référence, Jésus qui disait, quand vous serez traînés devant les synagogues, alors, de mémoire, hein, je m'excuse si ce n'est pas exactement les termes, hein, quand vous serez traînés devant les tribunaux, les synagogues, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, le Saint-Esprit à ce moment-là vous parlera à votre place. Ah, intéressant, avec ce qui se passe pour Étienne. Étienne n'a pas besoin de sortir des trésors d'élocution ou de rhétorique de lui-même. Étienne est rempli, c'est l'expression consacrée qu'on trouve, qu'on a lu tout à l'heure dans le récit de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui résiste. C'est un déferlement de persuasion, de vérité, de tout ce que vous voulez, irrésistible. Alors, on avance, vous voyez, le Saint-Esprit, on commence déjà, enfin, on commence, vous le saviez déjà, mais on voit déjà avec plus d'acuité quelles sont les capacités et l'intérêt pour nous de recevoir ce Saint-Esprit. Alors, justement, je viens de dire recevoir. Il faut quand même se pencher aussi sur le problème, comment ce Saint-Esprit nous atteint-il ? Comment, vous voyez, alors on dit, bon, comment être rempli du Saint-Esprit ? Alors je vous lis dans Acte 8, toujours dans les jours des Actes, hein. Acte 8, versets 14 à 17. Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, et ceux-ci, descendus chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Et là, si je vous avais demandé de retenir les deux mots qui reviennent, c'est le verbe recevoir. Ils avaient reçu, ils reçoivent, ils reçurent. Et le verbe descendre. Saint-Esprit descendit, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, il descend. Alors c'est une image, bien sûr, cet esprit n'est pas spécialement plus en haut qu'en bas, puisqu'il est esprit, par définition. Mais l'image est forte, parce qu'on désigne toujours la partie supérieure de notre terre comme le siège, sinon du paradis, en tout cas du royaume des cieux, d'où viennent, se trouvent les anges, etc. Donc ça vient vraiment d'en haut, ça vient du Seigneur. Et donc c'est ce qui arrive aux apôtres dans le premier texte que nous avons lu, donc le récit de la Pentecôte, des langues de feu. Alors là aussi, c'est une image. L'esprit n'est pas plus langue de feu qu'autre chose. Mais là, l'image, elle est précise. Des langues de feu. Il y a deux choses. Qui descendent sur... Donc, qui viennent d'en haut, donc du Seigneur, et qui viennent se poser sur les disciples. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, pourquoi des langues et pourquoi de feu ? Les langues, c'est la parole. C'est donc le don de la parole qui leur est donné, en priorité. Et de feu, parce que le feu, c'est extrêmement dynamique, c'est le feu du Saint-Esprit, le feu qui brûle, qui purifie, on en a parlé tout à l'heure dans la confession, le feu qui peut faire des ravages, mais des bons ravages, évidemment. Le Saint-Esprit ne fait pas de mauvais ravages. Intéressant, donc, être rempli du Saint-Esprit, c'est certainement quelque chose que tout chrétien doit désirer plus que tout. Vous lirez également volontiers Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'est chez Corneille. Je l'ai marqué là, mais je n'ai pas. Voilà, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Voilà encore quelque chose d'intéressant. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, eh bien nous sommes, tenez-vous bien, vous risquez de tomber de vos chaises, nous sommes susceptibles de recevoir le Saint-Esprit rien qu'en écoutant la parole. Pourquoi la parole de Dieu est une force, quelque chose d'incroyable, qui nous ouvre. Et là, à ce moment-là, on est ouvert et le Saint-Esprit s'engouffre en nous. C'est intéressant maintenant de voir le fait que le Saint-Esprit, il est en nous. Dimanche dernier, vous vous souvenez, Sophie nous a essayé de nous expliquer, a très bien expliqué, comment est-ce que Jésus peut dire « Vous êtes en moi et moi je suis dans le Père ». Alors elle avait ramené trois poupées gigognes et les poupées russes qui s'emboîtent. Alors vous voyez la petite, là c'est le Père, elle l'a mis dans l'autre, donc le Père est en Jésus, et puis Jésus elle l'a mis dans une autre plus grande, et puis là c'est nous, donc le Père et Jésus sont en nous, enfin un enchaînement, oui, un emboîtement. Et eh bien le Saint-Esprit c'est un peu la même chose, il agit à travers nous que lorsqu'il est en nous. Je voudrais encore vous lire un extrait. Acte 19, versets 1 à 6. Paul se rendit à Éphèse, il rencontra quelques disciples et leur dit « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Écoutez bien la réponse des Éphésiens. Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Sur ces paroles, alors je saute un passage un peu plus loin, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ah, là on aborde quelque chose de, encore quelque chose de neuf, là. Enfin de neuf, de plus. C'est que, alors oui, il y a de nouveau le verbe recevoir, ils reçurent, le Saint-Esprit vint sur eux et entre en eux. Et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Donc, c'est pas simplement le Saint-Esprit entre en deux, point. Ça a une conséquence, ça déchaîne, ça déclenche, pardon, quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on comprenne bien que le Saint-Esprit n'est pas... comme vous savez, comme les militaires, une décoration, un insigne, quelque chose, un plus pour certains chrétiens qui seraient des chrétiens plus, vous voyez, il y aurait une hiérarchie entre chrétiens, donc ceux qui seraient en haut, ils auraient le Saint-Esprit, les autres essayent de l'avoir, vous voyez, une distinction, voilà, je cherche le mot, une décoration, une distinction. Pas du tout. Le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui croient. Mais la différence, c'est qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils croient, ou qui ne réalisent pas qu'ils croient, et puis d'autres qui le réalisent. Et je pense que c'est lorsque on reçoit cette promesse de Jésus, avec une simplicité extrême, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut nous remplir. Il n'y a pas d'efforts à faire particuliers, à prouver, de choses à prouver, vous voyez. Il n'y a pas de qualité particulière à démontrer en nous pour que le Saint-Esprit dise en dessous, là, il est pas mal, je vais peut-être rentrer un petit peu dans ce chrétien-là. Il le mérite. Celui-là, par contre, il faudra quand même qu'il travaille un peu plus, sa connaissance de la parole. Ça. Regardez, des gens reçoivent dans la Bible, des gens reçoivent le Saint-Esprit, à la limite sans savoir de quoi il s'agit. Mais il croit à la parole, bien sûr, il croit en l'évangile, il croit que le Seigneur Jésus est venu pour les sauver. Mais, alors oui, le Saint-Esprit, je vois parfois des chrétiens qui font des efforts mais incommensurables, qui s'épuisent pour que le Saint-Esprit, alors que peut-être ils l'ont déjà en eux, et puis que de toute façon ça ne leur est pas demandé. Alors bien sûr, lorsque le Saint-Esprit est en nous, il y a quand même quelque chose qui change, par rapport au moment où on ne l'a pas. Dans Romains, chapitre 8, verset 9, voilà ce que Paul dit aux Romains. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Intéressant, alors oui, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, c'est-à-dire en vous, hein. C'est pas seulement sur nous, mais c'est vraiment en nous. Et à ce moment-là, eh bien, l'esprit de Dieu, il ne fait absolument aucune cohabitation avec l'esprit du monde. C'est ce que Paul appelle l'emprise de la chair, n'est-ce pas ? Les tentations, l'esprit du monde. Hein. Et donc, oui, en recevant l'Esprit Saint, c'est. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut très bien avoir le Saint-Esprit et faire revenir l'esprit du monde. À ce moment-là, il n'y a pas de place pour les deux. Voilà pourquoi Paul encourage à rester ferme dans la foi, ferme dans la vérité de la parole. Parce que, et même pour lui-même, hein, vous savez que dans les derniers temps, il dit « j'ai mené le bon combat », c'est-à-dire « je me suis battu toute ma vie pour que l'esprit du monde ne revienne pas en moi pour chasser tout ou partie de l'Esprit Saint ». Au verset 16 du même chapitre 8, il dit « l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu ». Tiens, alors là, maintenant, je suis en train de me dire une chose. Bon, très bien. Quand je lis ce verset, l'Esprit même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, on a un peu l'impression qu'il prend les commandes. C'est-à-dire que si on fait des choses assez extraordinaires comme les... Pourquoi pas comme les apôtres ont pu faire, ce n'est pas nous, c'est l'Esprit, oui. Est-ce qu'il n'y a pas, petite inquiétude, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de manipulation ? C'est-à-dire que là, on devient une marionnette. L'esprit entre en nous, il prend les commandes, et puis nous, on est. Ben oui, on est. Pas du tout. Pas du tout. Les deux cohabitent. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit, donc on a toujours, ça veut dire qu'on l'a toujours présent en nous, notre esprit n'est pas effacé au profit de celui de Dieu. Bon, ça c'était pour nous rassurer, le Saint-Esprit n'est pas un envahisseur, il n'est pas un manipulateur, certainement pas. Que dire encore ? Alors il y a beaucoup de choses, parce que je vais éviter soigneusement le sujet sur les dons du Saint-Esprit, parce que là il nous faut 3 prédications, et puis les manifestations du Saint-Esprit, il en faut là aussi 2 ou 3, pour faire le tour. Donc, oui, on ne peut pas. Mais non, mais ça, c'est bien l'image du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'absolument immense, dont on ne fera jamais le tout complet, n'est-ce pas ? Dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 12 à 13, Paul écrit : Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Et là, la boucle est bouclée. On revient à ce qu'enseigne l'esprit, l'enseignant. Alors, il n'y a pas le consolateur, mais... En expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels, vous voyez, on retrouve la définition, les caractéristiques de cet esprit selon Jésus lui-même. L'esprit de Dieu en nous explique à notre esprit tout ce que nous avons à savoir sur les réalités de Dieu. Et j'aime bien ce verset parce que ces deux versets, parce qu'il parle de la sagesse humaine, et pour dire non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Et vous voyez, tout le problème qu'on a avec le Saint-Esprit, ben, c'est qu'on veut toujours ramener notre sagesse humaine au lieu de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Alors, comment faire pour, une fois pour toutes, pour dégager cet esprit du monde qui est toujours un peu en nous, notre sagesse qu'on veut toujours mettre en avant, notre intellect. On l'aime bien parce que ben, c'est valorisant. Si on trouve des tas de trucs par notre intelligence, c'est très valorisant parce qu'on est intelligent. C'est pas ce que nous demande de Dieu, mais faites toute la place au Saint-Esprit dès lors qu'il s'agit de la connaissance de la parole. Comment faire ? L'humilité. Viens Seigneur, remplis mon cœur. chasse de mes pensées celles qui ne sont pas les tiennes, chasse de mon cœur tout ce qui n'est pas, qui ne t'appartient pas, et remplis-moi du Saint-Esprit. Humilité. Je ne sais rien, Seigneur, sauf que tu m'aimes et que tu veux m'enseigner, tu veux me montrer tout le chemin, la direction que tu veux pour moi. Enseigne-moi par ton Saint-Esprit. Amen.